RFI, bienvenue si vous nous rejoignez. Il est 9h à Paris, 7h temps universel, 10h à Tel Aviv.
RFI matin.
Et le journal d'Andréane Mélard. Bonjour Andréane.
Bonjour Nathalie, bonjour à toutes et à tous.
Des milliers d'Israéliens ont à nouveau manifesté hier soir.
Oui, toujours pour dénoncer le gouvernement et la guerre dans la bande de Gaza. Témoignage dans le cortège à suivre dès le début de ce journal. Et pendant ce temps, les bombardements israéliens continuent sur l'ensemble de l'enclave palestinienne. Vladimir Poutine entame ce mardi une visite d'État de 2 jours en Corée du Nord. L'occasion pour Moscou et Pyongyang d'afficher leur unité. L'unité, justement, c'est le maître mot de la gauche dans la campagne en cours pour les législatives anticipées en France. Campagne éclair, notamment sur les réseaux sociaux. Dans ce journal, on va aussi parler de l'Afrique du Sud à la veille de la prestation de serment de Cyril Ramaphosa. C'est notre dossier ce mardi. Et puis l'Euro de football, Kylian Mbappé blessé à l'issue du France-Autriche d'hier. C'est l'inquiétude dans les rangs des Bleus.
Arrêter la guerre, un des slogans que l'on a pu entendre hier à Jérusalem.
Scandé par des milliers d'Israéliens lors d'une manifestation organisée ce lundi devant le Parlement, mais aussi à la résidence de Benjamin Netanyahou. Premier rassemblement de tous ceux prévus cette semaine. Une colère qui vise toujours l'actuel gouvernement israélien. Les manifestants demandent aussi l'arrêt de la guerre dans la bande de Gaza et le retour des otages retenus par le Hamas depuis le 7 octobre. Reportage Sami Boukhelifa.
Un gouvernement de dictateurs. Un gouvernement de fascistes. Des slogans à la hauteur de la colère qui gronde. Pour Tova, Benjamin Netanyahou et ses ministres d'extrême droite ruinent Israël.
Ce gouvernement est une coalition de nationalistes fanatiques et de religieux qui ne se préoccupent pas de l'intérêt du pays. Ils œuvrent uniquement pour leur communauté.
En pleine guerre, le gouvernement et sa majorité sont en train d'ailleurs d'adopter une loi pour exempter les juifs religieux ultra-orthodoxes du service militaire, obligatoire pour le reste de la population à partir de 18 ans. C'est inacceptable, dénonce Noga, jeune étudiante.
Les juifs ultra-orthodoxes représentent aujourd'hui 20% de la population. Ils ne font pas l'armée. Ils font ce qu'ils veulent. Ils restent les bras croisés et sont financés par le gouvernement grâce à nos impôts. Ces gens refusent de se battre. Ils nous affaiblissent.
Dans la foule, Oren confie participer à toutes les manifestations contre Benjamin Netanyahou depuis des années.
La situation ne fait qu'empirer pour nos otages, pour nos soldats à Gaza et pour la population gazaoui. Tous souffrent à cause d'une guerre qui aurait dû prendre fin il y a bien longtemps, à mon avis.
Sami Bourtifa, Jérusalem, RFI.
Dans ce contexte, il y a un haut responsable israélien impliqué dans les négociations pour la libération des personnes enlevées par le Hamas le 7 octobre. Ce haut responsable a déclaré qu'Israël savait avec certitude que plusieurs dizaines d'otages sont en vie. Pendant ce temps, les opérations militaires, bombardements israéliens et combats se poursuivent du nord au sud de la bande de Gaza.
RFI, il est 16h03 à Pyongyang, la Corée du Nord, dans l'attente de la visite d'État de Vladimir Poutine.
Et c'est une réception en grande pompe qui est prévue pour le président russe. Avec parade et concert, il doit rester aujourd'hui et demain. Et à l'issue de ces 2 jours, un accord de partenariat stratégique pourrait être signé entre les deux pays, Sergio Fioretti.
Des liens qui ne cessent de se resserrer entre Moscou et Pyongyang. Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, Vladimir Poutine et Kim Jong-un n'ont eu de cesse de se rapprocher. Les officiels des deux pays se sont rencontrés à différentes reprises. Sergueï Shoigu, ancien ministre de la Défense russe, était déjà venu en visite en juillet dernier. Et Cho Sonhae, ministre des Affaires étrangères nord-coréenne, était allé à Moscou en janvier. En septembre, les deux chefs d'État s'étaient rencontrés dans l'Est russe, au cosmodrome de Vostochny. Kim Jong-un avait alors réussi à obtenir l'aide de Moscou pour le développement de son programme de satellite espion. Depuis, les États-Unis accusent Pyongyang de livrer en échange des missiles et des munitions à la Russie pour alimenter sa guerre en Ukraine. La question militaire pourrait d'ailleurs être au cœur de cette prochaine rencontre. Les observateurs préviennent que Kim et Poutine pourraient convenir d'un traité militaire pour renforcer leur coopération dans ce domaine. Jusqu'à sa chute, l'Union soviétique avait signé un traité de défense mutuelle avec le régime nord-coréen. Sergio Fioretti, Séoul, RFI.
Et ce mardi, le président russe a assuré du soutien indéfectible actuel et futur de la Russie à la Corée du Nord. Il a aussi remercié en retour Pyongyang pour son appui dans le cadre de son offensive en Ukraine.
L'offensive en Ukraine et la hausse des budgets de défense en Europe. En toile de fond, du salon Eurosatory.
Le plus grand salon de l'armement terrestre en Europe a débuté hier en région parisienne. Plus de 2000 exposants, 270 délégations étrangères, en l'absence cette année toutefois, et c'est rare, des entreprises israéliennes. Le salon a accueilli ses premiers visiteurs donc hier et a présenté, comme à chaque édition, les dernières innovations en matière de défense. Franck-Alexandre nous parle ce matin des travaux de l'industriel Safran sur l'utilisation de la communication optique laser pour faire face au système de brouillage de plus en plus répandu en zone de conflit.
Au salon de Eurosatory, les tendances sont fixées par le conflit ukrainien. Sur la ligne de front, pour se protéger notamment des drones kamikazes, le brouillage est partout. Néanmoins, les soldats doivent échanger des informations avec les C2, les centres de commandement et de contrôle situés à l'arrière du front. En particulier, ils doivent être en mesure d'envoyer des vidéos au format Full HD. L'industriel Safran s'est donc penché sur le problème et propose un système de communication par faisceau laser. Démonstration avec François Maginot.
On présente une technologie de communication optique laser qui peut permettre de partager des grandes quantités de données via un laser qui est modulé, et donc on atteint des débits qui sont proches de la fibre. Et ce qui est important aussi avec la communication laser, c'est que c'est ni brouillable, ni interceptable. C'est ce qu'on voit là sur le démonstrateur. Vous voyez, on a une vidéo live de nous deux qui est filmée par la petite caméra qui est au-dessus. En fait, cette petite caméra envoie l'image dans ce système, et ce système envoie l'information par voie optique à l'autre caméra qui est là-bas, et c'est elle qui retransmet ici. Donc ça permet à la fois de ne pas être brouillé, de ne pas être intercepté, et d'échanger un grand nombre de données avec un très bon débit.
Le laser permet aussi de s'affranchir des limitations de distance et de portée des systèmes radiofréquence. C'est une révolution.
Franck-Alexandre.
La France qui vit, Andréane, au rythme de la campagne pour les élections législatives anticipées du 30 juin.
Et il va falloir aller vite pour convaincre. Hier, le nouveau Front Populaire a tenu un premier meeting en région parisienne, une soirée et un mot d'ordre, l'unité de la gauche pour faire face à l'extrême droite, le Rassemblement National pour l'heure en tête des sondages. Hier aussi, Gabriel Attal, Premier ministre sortant, était prêt de Paris pour soutenir des candidats de la majorité présidentielle. Deux semaines de campagne, c'est très court, il faut aller à l'essentiel et sur tous les terrains, même en ligne, sur les réseaux sociaux. Valérie Gasse.
Son premier déplacement de campagne dans le Loiret, Jordan Bardella en a fait une vidéo Instagram. Des images devant des bottes de foin, des sourires, des selfies, des fromages de chèvre, de la musique. Et puis c'est tout, comme un clip de campagne. Il y a aussi le Bardella sérieux à son bureau qui se projette à Matignon.
Si le Rassemblement National remporte ses élections législatives, je deviendrai alors Premier ministre. Et j'aurai la responsabilité de former le gouvernement, un gouvernement d'union nationale.
Chaque vidéo fait passer un message, celui de Gabriel Attal, c'est « je vais chercher
bonjour,
toutes les voix,
Attal,
même au téléphone ».
Je suis avec Mathieu Lefebvre, là, votre député, on était venu pour faire campagne ici au Perreux, et bon voilà, on est passé à votre boulangerie, mais là je vous aide pas là. En tout cas, vous
Rachida Dati aussi maîtrise les réseaux sociaux, la ministre de la Culture n'est pas candidate, mais
bonjour
bat la campagne, filmée en voiture d'un déplacement à l'autre.
Nous allons tracter sur les marchés, nous allons avoir des cafés militants.
Moins professionnel, le député LFI François Ruffin lance un appel de sa cuisine en se filmant lui-même.
Non, Sandec, dans ma circonscription, vous le savez, j'ai 18 points de retard sur l'extrême droite.
En mode proximité et, aussi, Gérald Darmanin se filme.
Les deux extrêmes ont un projet communiste.
Message électoral et ambiance centre commercial.
Valérie Gasse, et ce matin, Olivier Faure, à la tête du Parti Socialiste, a dit vouloir un vote pour choisir le Premier ministre en cas de victoire de la gauche aux législatives. La Nouvelle-Calédonie, elle, votera aussi le 30 juin. Le territoire français du Pacifique, toujours en proie à des violences depuis un mois. Ce mardi, le président français Emmanuel Macron a demandé la levée ferme et définitive de tous les barrages érigés dans l'archipel. La présidentielle en Côte d'Ivoire, ce sera en 2025, donc l'an prochain, et dans cette perspective, c'est une prise de parole très attendue ce mardi, celle du président Alassane Ouattara, ce matin devant le Parlement, réuni en congrès. Alors c'est un exercice solennel annuel au cours duquel le dirigeant fait en général un point sur l'état de la nation, sur les différentes réalisations du gouvernement et sur l'avenir. Alors pour cette prise de parole aujourd'hui, Alassane Ouattara va-t-il annoncer sa candidature? S'il ne l'annonce pas, va-t-il soumettre d'autres options? Verdict donc ce matin lors de ce discours de Alassane. Hassan Ouattara. Lui s'exprimera demain à l'occasion de sa prestation de serment. Cyril Ramaphosa, fraîchement réélu vendredi dernier à la tête de l'Afrique du Sud. Plusieurs dignitaires africains ont été invités pour cette investiture demain, ainsi que le président de la Commission de l'Union africaine. On en parle dans notre dossier du jour avec Alexandra Brangeon. Alexandra, bonjour. Alors, Cyril Ramaphosa, on le rappelle, réélu par le Parlement pour un second mandat, après accord avec plusieurs partis d'opposition, l'ANC, le parti au pouvoir, ayant perdu sa majorité absolue pour la première fois en 30 ans. Ça signifie donc que l'ANC va devoir désormais partager le pouvoir.
Oui, et c'est une première dans l'histoire du pays. L'ANC, qui a perdu sa majorité absolue, a dû nouer des alliances en vue d'un gouvernement d'union nationale. Des discussions ont lieu en ce moment même. Une fois investi mercredi, le chef de l'État devrait annoncer dans les jours qui suivent la composition de ce nouveau gouvernement. Alors, quatre partis d'opposition ont accepté d'y participer. L'Alliance démocratique, le principal parti d'opposition, l'Inkatha Freedom Party, un parti zoulou arrivé cinquième, et deux petits partis, GUD, de l'ancienne maire du Cap, et l'Alliance patriotique, un parti populiste dirigé par un ancien gangster. À quoi va ressembler ce nouveau gouvernement? Selon le secrétaire général de l'ANC, il sera inclusif. La distribution des postes se fera en fonction du nombre de suffrages obtenus lors des élections. L'Alliance démocratique se taillera donc la part du lion, mais avec quel ministère? On écoute le politologue Arlan Klotte de l'Université du Free State.
L'ANC va essayer d'équilibrer ce gouvernement tout en se gardant les ministères clés. L'Alliance démocratique a une grande expérience en termes de gestion. N'oubliez pas qu'ils sont à la tête du Cap occidental depuis des années et qu'ils gèrent très bien cette province. Ils pourraient récupérer des ministères comme l'éducation et la santé qui ont été très mal gérés dans le passé.
Alors qu'en est-il des deux formations de l'opposition, le MK de Jacob Zuma et les combattants pour la liberté économique de Julius Malema, arrivés respectivement troisième et quatrième, vont-elles, ces formations, participer à ce gouvernement ?
Non, ces deux formations qui sont à la gauche de l'ANC n'ont pas voulu s'associer à un gouvernement d'union nationale. MK ou Umkhonto Wesizwe de Jacob Zuma ne veut pas discuter avec le président Cyril Ramaphosa. Les deux hommes sont des rivaux, voire même des ennemis. Le parti de Julius Malema, lui, ne veut pas participer à un gouvernement où serait présent l'Alliance démocratique qu'il juge trop blanc, trop libéral. L'absence de ces partis proches de l'ANC idéologiquement est problématique, explique Mbassa Mvenene de l'université Walter Sisulu.
Le parti MK de Jacob Zuma et les combattants pour la liberté économique de Julius Malema auraient dû faire partie d'un gouvernement d'union nationale, car ils ont obtenu un important nombre de voix. Le principe d'un gouvernement d'union nationale est justement qu'il soit le plus représentatif possible et qu'il inclut les principaux partis politiques. Donc je dirais qu'il ne s'agit pas vraiment d'un gouvernement d'union nationale, mais d'une grande coalition.
Un véritable exercice d'équilibre donc pour le chef de l'État, qui va devoir satisfaire ses nouveaux coéquipiers tout en se parant contre les critiques de l'aile gauche de l'ANC.
Alexandra Brangeon pour notre dossier du 9h dédié ce matin à l'Afrique du Sud.
Ce n'est pas ce qu'on peut appeler un démarrage sur les chapeaux de roue pour l'équipe de France dans l'Euro de football.
Oui, déjà parce que les Bleus l'ont certes emporté hier soir mais n'ont marqué aucun but. Le 1-0 de la victoire est dû à un but contre son camp autrichien à la 38e minute. Mais ce n'est presque pas ça que l'on retient de cette soirée hier. Plutôt, surtout même, Kylian Mbappé a attaquant phare des Bleus, capitaine qui quitte le terrain, le nez en sang. Antoine Grenier nous raconte.
Une petite blague sur les réseaux sociaux. À 23h30, temps universel, Kylian Mbappé publiait juste cette phrase. Des idées de masque, point d'interrogation. Une manière de rassurer tout le monde, alors que des images de lui montant dans une ambulance, masque chirurgical noir sur le visage, avaient circulé. Touché dans un duel avec Kevin Danseau, le capitaine des Bleus avait quitté la pelouse, ensanglanté à la 89e minute. Suffisant pour inquiéter son sélectionneur Didier Deschamps.
Il a un nez qui est amoché, oui, ça c'est sûr. Donc, à voir, mais ça semble compliqué. Donc c'est évidemment le point noir de cette soirée pour nous. Je l'ai vu allongé sur la table de massage, oui. C'est pas une égratignure, donc et il a été pris en main par le staff médical. Il y aura des décisions qui seront prises, donc je peux pas vous donner de réponse précise parce que j'ai pas les éléments.
Dans la foulée, le président de la fédération, Philippe Diallo, a glissé aux journalistes présents à Düsseldorf que Mbappé ne serait pas opéré. Du côté des joueurs, le coup dur vécu par leur capitaine gâchait un peu le succès contre l'Autriche, admettait Olivier Giroud.
On est un peu déçu pour Kylian. Maintenant, il allait faire des examens et je peux pas vous répondre quant à sa blessure. Mais on ne sait pas encore s'il pourra jouer le prochain match ou pas, donc on n'en sait rien.
Mbappé qui pourrait bien rater les deux prochains matchs de phase de groupe. Antoine Grenier, Düsseldorf, RFI.
Autre rencontre d'hier dans le cadre de cet Euro, la Slovaquie l'a emporté sur la Belgique 1-0 et la Roumanie a battu l'Ukraine 3-0 suite et fin aujourd'hui de la première journée des phases de poule. Le Portugal entre en lice et affronte la République tchèque à 21h heure de Paris et avant cela la Turquie va affronter la Géorgie.
Et les sports reviennent à 9h42 avec Sarah Lou Bakouche. Merci Andréane Mellard. Bonne journée à vous, il est 9h15 à Paris. L'heure de passer en revue la presse internationale de ce mardi 18 juin. Frédéric Couteau à la une, l'Amérique à chaud.
Oui, si le duel présidentiel Biden-Trump qui s'annonce enflamme déjà les esprits des Américains, leurs corps aussi sont mis à rude épreuve. Nous ne sommes qu'en juin et une vague de chaleur précoce s'abat sur une grande partie des États-Unis, constate le New York Times. À Chicago, les plages étaient bondées hier dès le milieu de la matinée et coup de chance, c'était le premier jour où des centaines de piscines municipales et de centres aquatiques ouvraient leurs portes pour l'été. Dans tout le Midwest, poursuit le journal, les personnes qui travaillent à l'extérieur ont déjà dû s'adapter à cette vague de chaleur relativement précoce qui, d'après les météorologues, pourrait s'étendre sur plusieurs jours et même plus. Les prévisionnistes annoncent en effet un été brûlant. Même situation un peu plus au nord, une énorme bulle de chaleur s'installe sur une bonne partie du Québec cette semaine, prévient Le Devoir.
En Californie, il fait très chaud également et les feux de forêt ont fait leur apparition.
La crainte d'une catastrophe s'exclame à des milliers de kilomètres de là. Le Süddeutsche Zeitung. Nous regardons de nouveau impuissants ces images post-apocalyptiques, soupire le quotidien allemand. 1200 visiteurs ont dû fuir les flammes du Hungry Valley Park, une destination populaire pour les randonneurs et les motards, située à environ 2 heures de route au nord-ouest de Los Angeles, à mi-chemin des arbres majestueux du parc national de Sequoia. Depuis samedi après-midi, le Post-Fire, c'est le nom donné à cet incendie, s'est étendu sur plus de 6000 hectares. Hier après-midi, il n'était circonscrit qu'à 8%, jusqu'à présent, c'est le plus grand incendie de forêt de Californie de cette année. Le Figaro, à Paris, précise que d'après les scientifiques, ces vagues de chaleur à répétition sont un marqueur sans équivoque du réchauffement de la planète et sont appelées à se multiplier, à durer plus longtemps et à s'intensifier. Les spécialistes estiment également que des températures anormalement élevées en période pré-estivale peuvent être annonciatrices d'un été suffocant.
Et il n'y a pas que les États-Unis, Frédéric, on assiste à des scènes de chaleur extrêmes dans le monde entier, pointe le Washington Post.
Oui, des dizaines de décès dus à la chaleur ont été signalés en Inde, où les températures ont atteint près de 50 degrés. En Grèce, les autorités s'inquiètent de la disparition de plusieurs touristes en raison des températures élevées qui sévissent dans le pays. Et puis aux Philippines, note encore le Washington Post, la chaleur extrême fait des ravages dans les prisons surpeuplées du pays. Dans certains établissements, les détenus ont même été autorisés à dormir sur les toits.
Et il n'y a pas, à l'inverse, je m'étais un peu perdue dans mes feuilles. À l'inverse, Frédéric, c'est le déluge. Dans d'autres parties du monde, le Wall Street Journal nous propose un reportage photo saisissant au Brésil.
Oui, le Brésil qui se croyait à l'abri des catastrophes naturelles, puis ce fut l'inondation, s'exclame le journal. C'était le mois dernier. Pendant 250 ans, commerçants et agriculteurs ont travaillé sur les rives du fleuve Tacari dans le sud du pays, un sud prospère, transformant cette petite communauté en un centre de production de maïs et de tabac, mais en l'espace de quelques jours, souligne le Wall Street Journal, la ville de Mariante et ses quelques 600 maisons ont été réduites à un amas de décombres boueux, rayés de la carte, comme des dizaines d'autres localités au Brésil, par des inondations catastrophiques qui ont fait au moins 175 morts. Plus de 650 000 personnes ont été évacuées. Il s'agit du plus grand déplacement de population jamais enregistré dans le pays. Les écologistes estiment que cette catastrophe est le signe avant-coureur des désastres à venir, le changement climatique déracinant de plus en plus de familles dans le monde.
Et en effet, ça n'est sans doute pas terminé.
Dans le quotidien brésilien O Globo, le gouverneur de l'État de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, met en effet en garde contre les risques d'inondations et de glissements de terrain liés aux nouvelles intempéries. De fortes pluies sont prévues jusqu'à demain, mercredi, et le fleuve Tacari, encore une fois, devrait sortir de son lit, de même que d'autres cours d'eau de la région. Il est recommandé, précise encore le quotidien O Globo, il est recommandé aux personnes qui vivent dans des zones ayant déjà subi des inondations, de s'abriter dans des endroits sûrs.
Frédéric Couteau pour la revue de la presse internationale. Merci à vous. Dans quelques minutes, cette question. Que fait l'Italie de Giorgia Meloni contre les bouleversements du climat? Quelle est sa politique en la matière? Ce sera notre question d'environnement. Et on reste en Europe alors que le Rassemblement national semble en France aux portes du pouvoir. Les élections du 9 juin ont offert une large victoire à des partis d'extrême droite sur le continent. C'est le cas aux Pays-Bas, même si le PVV, le Parti pour la Liberté de Geert Wilders, n'arrive que deuxième derrière une coalition entre les travaillistes et les écologistes. Il a réussi l'exploit d'obtenir 6 députés européens. Il n'en avait plus aucun dans le Parlement sortant. Bonjour Pierre Benazet.
Bonjour.
Correspondant d'RFI en direct avec nous de Bruxelles. Ce score européen, en fait, confirme celui des législatives néerlandaises. En novembre, l'extrême droite, désormais, est au gouvernement aux Pays-Bas.
Oui, mais c'est très récent parce que ce gouvernement n'est pas encore totalement confirmé. Il y aura une session parlementaire, par exemple, jeudi pour que les députés puissent évaluer les vice-premiers ministres en lice. C'est donc impossible de savoir aujourd'hui si l'exercice du pouvoir aurait usé le parti de Geert Wilders puisque ce gouvernement n'était évidemment pas véritablement en place le 6 juin, jour du scrutin européen aux Pays-Bas. C'est la première fois, en tout cas, que l'extrême droite est au gouvernement, mais elle a déjà été au pouvoir parce que le PVV de Geert Wilders, c'était ce qu'on appelle partenaire silencieux du premier gouvernement Rutte en 2010, c'est-à-dire qu'il faisait partie, le PVV, de la coalition, mais il n'avait pas de ministre.
Alors pour former ce nouveau gouvernement d'un type très particulier, Pierre, il aura fallu 6 mois de négociations.
Oui, très ardu souvent ces négociations et elles ont même conduit Geert Wilders à renoncer au poste de ministre-président, c'est-à-dire de premier ministre. Les 4 partis de la coalition ont fini par choisir une personnalité apolitique pour diriger le gouvernement. Il s'appelle Dick Schroef, c'est un haut fonctionnaire. Il a entre autres été le patron des services de renseignement des Pays-Bas. Et pour les équilibres, chaque parti aura un vice-premier ministre avec une hiérarchie basée sur les scores législatifs, évidemment. Le PVV de Geert Wilders aura des portefeuilles clés comme l'infrastructure ou l'économie, mais les portefeuilles régaliens comme défense, finance, sécurité, justice ont été attribués aux libéraux du VVD, le parti de Mark Rutte, le premier ministre sortant.
En revanche, Geert Wilders décroche pour son parti le portefeuille qu'il souhaitait avant tout, asile et migration.
Effectivement, et puis déjà les choses sont tendues là parce que la future ministre, Marjolein Faber, a par le passé évoqué le grand remplacement, sujet de prédilection de l'extrême droite européenne. La crise a été évitée de peu au cours du week-end, mais on peut attendre un durcissement radical sur l'asile et la migration. Et puis ce portefeuille avait déjà fait des vagues. Le premier candidat présenté par le PVV s'appelait Gedeon Gidi Markeshover. Il a dû retirer sa candidature car un rapport du service de renseignement l'estime trop proche d'un service de renseignement étranger. Gidi Markeshover a la double nationalité néerlandaise et israélienne. Et on sait aussi que son parti, le PVV, est très pro-israélien, alors que Geert Wilders lui-même est en outre extrêmement hostile à l'islam.
Pierre Benazet, en ligne de Bruxelles, avec nous dans RFI Matin. Merci à vous. Alors la Croatie, elle ne fait pas partie de l'Union européenne, mais depuis les législatives de mi-avril, l'extrême droite y est aussi associée au gouvernement. Le Premier ministre conservateur Andrej Plenković a dû faire alliance avec le DP, mouvement patriotique d'extrême droite. C'est la première fois depuis l'indépendance qu'un parti ouvertement xénophobe et anti-serbe arrive au pouvoir. Et pour comprendre le résultat de sa politique, il faut se rendre à Vukovar, théâtre dans les années 90 de la première grande bataille des guerres qui ont ensanglanté les Balkans. Le leader du DP, Ivan Penava, en est le maire. La politique qu'il y a menée n'a fait qu'exacerber les divisions. C'est un reportage à Vukovar de Louis Seyé.
Près de 30 ans après la fin de la guerre, Vukovar a été quasiment entièrement reconstruite et la ville dispose d'infrastructures modernes financées par l'Union européenne. Croates comme Serbes se côtoient tous les jours, mais les traumatismes du passé hantent toujours la ville. À 42 ans, Kristina travaille à la poste et au marché municipal. Elle a dû partir comme réfugiée avec ses parents en 1991 et elle a perdu plusieurs de ses proches lors du conflit.
Peut-être que mon voisin ou d'autres habitants de nationalité serbe ont participé au meurtre des membres de ma famille qui se trouvaient à Vukovar dans les années 90. Ici, les divisions sont entretenues dès le plus jeune âge. Vous avez des écoles qui suivent le programme serbe et d'autres le programme croate. Mais le problème, c'est qu'elles n'enseignent pas la même histoire. Pour certains, le 18 novembre 91, Vukovar est tombée et pour d'autres, ce jour-là, elle a été libérée. C'est n'importe quoi.
Ces divisions communautaires, le maire de la ville n'a cessé de les entretenir. Ivan Penava, 49 ans, est passé par le Parti des conservateurs croates et il est aujourd'hui le chef d'une formation ouvertement xénophobe et révisionniste. Son mouvement patriotique vient d'entrer au gouvernement après avoir violemment attaqué les droits de la minorité serbe. À la tête de la mairie de Vukovar, il avait déjà fait interdire l'utilisation de la langue serbe et de l'alphabet cyrillique. Comme beaucoup de Serbes de Croatie, Dušan Velimirović s'inquiète de l'arrivée au pouvoir de cette coalition très à droite.
Vukovar est une ville qui connaît déjà des incidents interethniques, même s'il n'y en a pas beaucoup plus que dans d'autres villes. Mais à Vukovar, le moindre incident est scruté. C'est une ville qui se caractérise par une lutte entre les différentes nationalités. Cette coalition peut provoquer de nouvelles tensions.
Comme dans beaucoup d'autres villes d'ex-Yougoslavie, les habitants de Vukovar se sentent prisonniers des querelles politiques qui opposent toujours Zagreb et Belgrade. Dijana Antunović-Lazić dirige l'ONG La Maison de l'Europe.
Les habitants de Vukovar sont mécontents parce que leur ville sert régulièrement de terrain d'entraînement pour les combats politiques. Mais nous, quelle que soit notre nationalité, nous essayons d'œuvrer à la construction d'une ville qui ne soit plus la même qu'avant la guerre, une ville qui serait une belle petite ville européenne.
Une vision rassembleuse que ne partage pas le nouvel exécutif croate. Pour son entrée au gouvernement, l'extrême droite anti-serbe a obtenu 3 ministères importants, agriculture, économie et démographie. Le maire de Vukovar, quant à lui, a été élu vice-président du Parlement.
Louis Seyer, Vukovar, RFI.
La Vukovar, Paris et Rome, il est 9h25. C'est l'une des grandes gagnantes des élections européennes qui se sont tenues récemment en Italie. La première ministre d'extrême droite, Giorgia Meloni, est sortie renforcée du scrutin il y a quelques jours à Bari. Elle accueillait même les dirigeants du G7, poursuivant sur la scène internationale son opération normalisation. Bonjour Lucille Gimbert.
Bonjour.
Quelle est sa politique Bonjour. En matière de lutte contre le réchauffement climatique? C'est mieux avec le micro en effet. Quelle est la politique de Giorgia Meloni en matière de lutte contre le réchauffement climatique? On se pose la question avec vous, c'est même notre question d'environnement.
Oui, là aussi, la dirigeante italienne tente d'effacer l'identité néo-fasciste de son parti en s'affichant pro-climat aux côtés de Joe Biden, par exemple, ou en portant des ambitions que les ONG locales considèrent positives à la dernière COP de Dubaï. Eh bien, son objectif, c'est de consolider une image fiable sur la scène internationale, image différente de celle dépeinte lors de son élection fin 2022. Pas de déclaration climato-sceptique, hein, donc pour Meloni, celui qui nie la science, en revanche, c'est son allié au gouvernement, Matteo Salvini, le patron de la Ligue, l'autre extrême droite italienne.
Sur le plan national, Lucille, quelle politique mène Giorgia Meloni face au climat qui s'emballe?
Le discours est plus ambigu. Certains spécialistes de la décarbonation de l'Italie, hein, c'est le troisième pays le plus émetteur de gaz à effet de serre en Europe, parlent même d'un double discours. Giorgia Meloni ne propose pas de démonter les éoliennes, comme l'avait fait en 2022 la leader d'extrême droite française Marine Le Pen, mais elle freine la transition écologique. Mauro Albrizio de l'ONG environnementale Legambiente.
Dans le plan de relance post-pandémie du gouvernement Draghi, il y avait un objectif climatique global pour l'économie, moins 51% d'émissions d'ici 2030. Dans le dernier plan climat et énergie transmis par Meloni à Bruxelles, il n'y a plus d'objectif global. Le gouvernement se contente d'y appliquer les principaux règlements et les principales directives européennes. Mais d'après les données de l'Agence italienne de l'environnement, ces engagements correspondent à une cible globale de moins 40% d'émissions, bien loin des objectifs visés au niveau européen.
La transition énergétique a été enclenchée bien avant l'arrivée au pouvoir de Meloni. Aujourd'hui, les énergies renouvelables en Italie représentent plus d'un tiers du mix électrique du pays. Mais les nouvelles installations d'éoliennes, par exemple, explique Luca Iacoboni du think tank ECO basé à Rome, ces installations d'éoliennes sont bloquées par la bureaucratie, notamment au niveau régional, et par le manque de clarté du gouvernement. Giorgia Meloni parle, elle, de pragmatisme dans l'application de l'accord de Paris.
Alors pragmatisme, cela veut dire quoi, Lucille?
Elle affirme que l'économie italienne est encore trop fragile pour une transition énergétique rapide, qu'il ne faut pas faire cette transition au détriment des entreprises, notamment de l'automobile. En réalité, Meloni, comme ses prédécesseurs, ne veut pas lâcher au niveau niveau énergétique le filon du gaz. Le géant pétro-gazier national Eni est l'une des entreprises qui émet le plus de gaz à effet de serre au niveau mondial. Et l'objectif du gouvernement italien avec son plan Mattei est de développer encore plus les revenus tirés du gaz, notamment en s'étendant en Afrique. Pourtant, l'Italie paye déjà le prix avec la tropicalisation de son climat, inondations records, sécheresses, incendies et des rendements agricoles à la baisse. Aujourd'hui, les Italiens sont conscients du changement climatique, conclut Mauro Albrizio. Alors l'extrême droite ne nie plus le réchauffement de la planète, mais elle retarde la transition.
La question d'environnement du jour avec vous, Lucille Gimbert. Merci à vous. La suite d'RFI Matin, c'est dans un peu moins d'une minute. Le point sur l'actualité africaine avec Victorien Villaume, les sports, Sarah Loubacouche. Et puis, reportage, témoignage de ces Burkinabés qui ont fui leur pays en raison de la situation sécuritaire. Témoignage recueilli à Abidjan par notre correspondante Binta Diagne et par Abdoulaye Diko.
Airfono Palmier Rouge et RFI Talent présentent Eda Diaz en concert. À l'occasion de la sortie de son premier album, Suave Bruta, découvrez l'artiste franco-colombienne sur la scène du parc de Bourladingen, au Plessis-Trévis, près de Paris, dans le cadre du Plestival, le 22 juin à 21h45. Plus d'infos sur la page Facebook Plestival.